Radio Kapi. Oh,
Kapi. Les informations, Gisèle Cage. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre journal. Voici ce qu'il faut retenir ce soir. L'ONU célèbre 80 ans d'action mondiale en RDC. Patrice Vahar rappelle les efforts des Nations Unies pour accompagner le pays sur le plan humanitaire, social et sécuritaire. Tension persistante dans l'est de la RDC, alors que des drones ont frappé une usine d'or à Twangiza. C'est mort la panique. Le gouvernement congolais dénonce les accusations du M23 comme une tentative de manipulation de l'opinion. Entretien du jour, Jean-Claude Kayumba Chabani, coordonnateur du réseau des associations pour le développement communautaire dans le Maniema, revient sur l'aide apportée aux sinistrés de récentes pluies diluviennes et des défis rencontrés par son organisation. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal pour suivre cet échange exclusif. Pour ouvrir ce journal, intéressons-nous à un événement marquant célébré ce 24 octobre 2025, le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. À cette occasion, le coordonnateur résident et humanitaire par intérim des Nations Unies en République démocratique du Congo, Patrice Vahar, a adressé un message fort. Il y a rappelé les actions menées par les Nations Unies en RDC ainsi que leur engagement en faveur d'une paix durable et d'une justice sociale dans ce pays d'Afrique centrale. Écoutons à présent un extrait de son intervention sélectionnée par Vanessa Kongolo.
Les Nations Unies accompagnent aux côtés du gouvernement les efforts en faveur de la paix, du dialogue et de la protection des civils. Nous accompagnons les institutions pour renforcer la justice, la redevabilité et la dignité humaine. Nous œuvrons pour une économie plus inclusive, une gouvernance plus efficace et un accès équitable aux services sociaux de base. Il convient en outre de souligner le caractère réciproque de cet engagement. En effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo apporte un appui substantiel au système des Nations Unies dans la mise en œuvre de son mandat en offrant non seulement les facilités diplomatiques nécessaires à notre présence et à nos actions, mais également en mobilisant des ressources nationales pour soutenir les initiatives conjointes. Le programme de développement local des 145 territoires, le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, d'autres mécanismes de financement nationaux illustrent de manière concrète cette collaboration active et soutenue.
À Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, la journée des Nations Unies a été célébrée ce jeudi dans la base de la MONUSCO à Mavivi, située à une douzaine de kilomètres de centre-ville. La cérémonie a rassemblé le vice-gouverneur du Nord Kivu, des représentants des agences du système des Nations Unies, des organisations des jeunes et des femmes, ainsi que des acteurs de la société civile. Pour les détails, écoutons Martial Papimokeba.
Sous un ciel clément et dans une ambiance empreinte de solennité, le vice-gouverneur du Nord Kivu a salué l'appui constant des Nations Unies dans plusieurs domaines. Le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa.
Je voudrais donc à cette occasion saluer la présence et l'engagement constant de la MONUSCO et des agences des Nations Unies auprès du peuple du Nord Kivu. Vos actions dans le domaine de la sécurité et de l'assistance humanitaire, de la santé, de l'éducation et du développement local sont des signes tangibles de solidarité envers notre population. Je rends hommage à tous les cassés bleus, hommes et femmes qui servent ici parfois au prix de leur vie.
Pour sa part, Ali Garba, chef du sous-bureau intérimaire de la MONUSCO à Beni, a appelé à l'engagement de tous pour la paix dans l'est du pays.
Nous devons dire non à la guerre, mais aussi participer à la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Le thème de cette année, construisons l'avenir ensemble, mais on ne peut le construire qu'avec la paix.
Les responsables des différentes agences de l'ONU ont profité de l'occasion pour faire une exposition sur leurs actions dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Bukavu, Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Cap sur Genève en Suisse où s'est clôturée ce jeudi la 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. À l'issue des échanges avec le responsable de cette institution et du Centre du commerce international, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, qui a conduit la délégation de la RDC, a annoncé la tenue à Kinshasa du 10 au 14 novembre prochain d'un forum consacré au renforcement des capacités du Comité national de la accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Pour le secrétaire général du commerce extérieur, ce forum constitue l'une des retombées directes de la ratification par la RDC de deux accords historiques de l'OMC, l'accord sur la facilitation des échanges et celui relatif aux subventions à la pêche. Écoutons Jules Mwilumbo dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Aujourd'hui, nous avons été reçus par la haute hiérarchie du CCI. Nous avons tablé nos échanges sur trois axes essentiels, à savoir la diversification des marchés et également de produits. Dans ce cas, nous avons parlé de produits miniers et évidemment des produits de l'agro-industrie. Nous avons changé sur l'organisation d'un forum qui va essentiellement travailler sur les produits miniers, donc comment les transformer. Et nous avons saisi la balle au bon par rapport à la proposition qui avait été faite hier par notre ministre concernant la mise en place d'une organisation qui va s'occuper des produits miniers critiques et également pour amorcer les différents aspects liés notamment à la compétitivité de nos produits, les cafés, les cacaos et tout ce qui est épices également. Alors, avec l'équipe de la CNUSED, nous vous avons parlé de la mission qui sera effectuée à Kinshasa, précisément dans 10 jours, qui va travailler essentiellement sur les aspects liés à la facilitation des échanges. Nous avons également saisi l'occasion pour mettre sur la table une proposition concernant la traçabilité de nos produits miniers. La CNUSED a un programme qu'il a mis en place et qui est déjà fonctionnel dans certains pays africains, qui concerne à faire suivre le mouvement de produits miniers dès l'extraction jusqu'à l'exportation.
Cap sur le Sud Kivu, les tensions sécuritaires se font de nouveau sentir. Hier, des drones d'origine encore inconnue ont bombardé le site de l'usine d'or des Twangiza Mining, provoquant l'évacuation immédiate des travailleurs. Les activités sont désormais suspendues et la production arrêtée. La population, encore sous le choc des fortes détonations entendues, commence peu à peu à sortir de leur torpeur causée par cet incident.
Les travailleurs ont déserté le site de Twangiza Mining depuis hier, immédiatement après les bombardements survenus dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces travailleurs déclarent qu'ils n'ont plus rien à faire sur leur lieu de travail, dont une partie de l'outil de production a été détruite par des drones. Les deux mortiers métalliques qui servent à extraire l'or du sable ont été détruits. De même pour les camions citernes qui alimentent l'usine en carburant. Témoignage.
L'usine venait de reprendre la production jusqu'à la veille. Nous avons aperçu la nuit le drone survoler l'espace aérien vers Nembwe. Et c'est au retour que cet engin a lancé des bombes sur les installations de l'usine d'or de Twangiza, précisément à 1h10. Cette fois-ci, l'usine ferme complètement. Tous les ouvriers s'en vont.
Les bombardements sont survenus alors que l'usine venait à peine de se remettre de tout premier dommage causé la semaine antérieure, là encore par des drones.
Dans un contexte marqué par les tensions armées dans le Sud Kivu, le gouvernement congolais réagit aux récentes accusations des rebelles de l'AFC M23. Ce dernier accuse les autorités d'avoir violé les cessez-le-feu dans cette région. Des allégations que le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a fermement démenti lors d'un briefing de presse tenu ce jeudi à Kinshasa aux côtés de la ministre de l'Environnement. Il a qualifié la sortie médiatique des rebelles des lucubrations visant à désorienter l'opinion nationale et internationale. Patrick Muyaya a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur l'essentiel, notamment la mise en œuvre du mécanisme de cessez-le-feu pour sortir le pays de la crise sécuritaire. Propos recueillis par Blaise Onongala Mayanda.
Je pense que, en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres de lucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, Il y a des règles qui sont fixées par la médiation. Tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu. Nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu. Nous savons qui a massacré à Rutshuru. Nous savons qui brime les médias. Nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel, notamment les premières actions de l'ordre opérationnel qui avaient été convenues aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint référez-vous à l'accord et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion.
Au Nord Kivu, un calme précaire s'observe ce vendredi dans la localité d'Ioula, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale. C'est après une journée de violents combats ayant opposé hier jeudi les rebelles du M23 à l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo. Plusieurs sources dans la région indiquent que jusque tard là, dans la soirée, hier, des détonations d'armes lourdes et légères se faisaient entendre, semant la panique parmi la population civile. Si la localité reste jusqu'à présent occupée par la rébellion AFC M23, elle s'est presque entièrement vidée de ses habitants, disons nos sources. À présent, la situation reste volatile dans la zone, conclut-elle. Le général-major Charles Akili Moindo, inspecteur général adjoint des FARDC chargé des opérations et des renseignements, est arrivé ce jeudi à Kikwit, chef-lieu de la province du Kwilu. Selon le porte-parole militaire dans la région, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission officielle d'évaluation des capacités opérationnelles des unités de la 11e région militaire qui couvre notamment l'espace du Grand Bandundu. Au cours de cette journée, le numéro 2 de l'inspection générale des FARDC a visité plusieurs infrastructures militaires en cours de finalisation. Un briefing sécuritaire lui a également été présenté par le général-major Jonas Padirimouizi, commandant de la 11e région militaire. Plus de détails avec Grace Hamzati.
Dans son intervention, le général Jonas Padiri rappelle tout d'abord que le Grand Bandundu partage 1200 km de frontières terrestres avec l'Angola et 114 km de frontières fluviales avec le Congo-Brazzaville. Une configuration géographique qui, selon lui, nécessite un renforcement constant des dispositifs sécuritaires. Au sujet des opérations contre les miliciens Mobondo, le général Padiri affirme que les actions se poursuivent avec des résultats encourageants. Il précise que suite aux efforts de sensibilisation menés par la réserve de l'armée de la défense RAD, plusieurs combattants Mobondo ont exprimé leur volonté de se rendre. Ainsi, pour favoriser cette dynamique, le commandement a temporairement réduit les opérations de traque tout en maintenant des patrouilles de routine. À ce jour, déclare-t-il, plus de 700 combattants Mobondo se sont déjà rendus dans les localités de Kinsele, Liono, Ipong et Opon-Kwango. Toutefois, certains éléments récalcitrants continuent d'occuper des villages appartenant à la communauté Yaka où ils installent même des faux chefs coutumiers, contribuant ainsi à la persistance de l'insécurité dans la zone, souligne le commandant de la 11e région militaire.
Autre sujet à suivre dans ce journal, un pont de 600 mètres sera bientôt construit au-dessus de la rivière Ubangi pour relier la République démocratique du Congo à la République centrafricaine. Ce projet stratégique s'inscrit dans le prolongement du corridor routier Douala-Mombasa qui traverse la RDC. Objectif, faciliter les échanges transfrontaliers, renforcer l'intégration économique sous-régionale et dynamiser le commerce entre les deux pays. Le vice Premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba s'est rendu sur le site. Ce chantier est porté conjointement par la RDC et la République centrafricaine avec le soutien de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC et la Banque africaine de développement BAD. Jean-Guilain Bilazo, chef de poste principal adjoint de la DGM à Zongo, revient sur l'importance de ce pont et ses retombées socio-économiques pour les habitants du Grand Équateur. Écoutons cet extrait sélectionné par Blaise Makassi.
On va jeter le pont sur la rivière Ubangi entre la République centrafricaine et notre pays. C'est un projet régional qui est la continuité de la route qui va du port de Douala au Cameroun jusqu'à Mombasa. Et cette route-là va traverser par nous ici. Ce pont-là est bienvenu pour nous. Parce que vous savez, nous sommes un pays qui produit beaucoup. Nos produits pour traverser la rivière, c'est toute une gymnastique. Et quand on jette ces ponts, ça sera une facilité, ce sera bénéfique pour nous. Et il y a un poste frontalier qui sera construit de notre côté. Toutes les formalités vont se faire chez nous au Congo. Et puis, par après, le véhicule pourra passer. Nous saluons ce projet parce que c'est vraiment un soulagement pour nous. Zongo, c'est le poumon économique de notre province.
Lualaba, la situation des créateurs artisanaux dans cette province soulève des vives inquiétudes. C'est le constat du Bureau des coordinations provinciales de la Commission nationale de droit de l'homme, CNDH. Selon cette institution d'appui à la démocratie, les zones d'exploitation artisanale qui leur avaient été promises ne sont toujours pas mises à leur disposition. En conséquence, ces créateurs organisent régulièrement des manifestations pour revendiquer leurs droits, souvent marqués par des graves violations de droits humains. Arthur Kaboulo, coordonnateur provincial de la CNDH, dont les lois là-bas joint par Jean Gandou, nous en dit davantage.
Depuis un certain moment, la CNDH BRP Lualaba documente, en vue d'établir les responsabilités, une série de manifestations sur base des réclamations dont seraient auteurs les exploitants artisanaux dits créateurs dans la ville de Kolwezi. Et celle-ci s'est fait suivre des graves violations des droits de l'homme que nous ne cessons de déplorer. Une occasion d'interpeller les ministères de tutelle au niveau national, ainsi que tous les acteurs habilités à répondre le plus tôt à ces revendications, dont la principale serait l'octroi de ZEA viable, ce qui éviterait sensiblement les incursions dans le site privé et les perturbations intermittentes de l'ordre public. Nous interpellons également ces derniers à envisager chaque fois les voies pacifiques et de plonger dans les abus, gestes auxquels les forces de l'ordre et notre justice ne resteront pas impuissants. Nous annonçons par la même occasion pour l'organisation à Kolwezi, dans les cadres de nos missions, d'une rencontre de sensibilisation et d'échange avec différents responsables de ces secteurs.
Actualité internationale.
Dans la nuit du jeudi à ce vendredi, les forces armées américaines ont mené une opération ciblée dans les eaux internationales de Caraïbes visant une embarcation soupçonnée d'être utilisée par les gangs vénézuéliens, le train de Aragua, récemment désigné comme organisation terroriste par les États-Unis. L'annonce a été faite par le secrétaire américain à la défense sur les réseaux sociaux X. Il a précisé que l'attaque ordonnée par le président Donald Trump a entraîné la mort de 6 individus qualifiés des narcoterroristes. Selon les secrétaires américains à la défense, le bateau naviguait sur une route connue pour le trafic de stupéfiants et était impliqué dans des activités de contrebande de drogue. Cette frappe constitue la 6e opération militaire de ce type depuis le lancement de la campagne américaine contre le réseau de narcotrafic en septembre. Elle est également la première à avoir été menée de nuit. Aucun soldat américain n'a été blessé au cours de cette intervention.
L'invité.
Notre invité dans ce journal s'appelle Jean-Claude Kayumba Chabani. Il est le coordonnateur du réseau des associations pour le développement communautaire dans la province du Maniema. Dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga, il revient sur l'assistance apportée aux sinistrés de la récente pluie diluvienne qui s'est abattue sur la région. Il évoque également les défis auxquels son organisation est confrontée pour venir en aide à toutes les victimes de cette catastrophe naturelle. Suivons cet échange.
Jean-Claude Kayumba Chabani, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous venez d'assister 1350 ménages victimes de vents violents qui a secoué la ville de Kindu. Quelle a été la nature de votre assistance?
Merci beaucoup, madame. Comme tu connais toi-même, en date du 26 août 2025, il y avait une pluie torrentielle accompagnée de vents violents dans la ville de Kindu et les territoires environnants. Maintenant, nous avons assisté 1350 ménages victimes de cette catastrophe en cash d'abord, parce que notre projet avait 3 secteurs, celui des cash, et celui de eau, hygiène et assainissement et celui de l'éducation.
En cash, c'était combien d'argent? Et quand vous parlez des kits wash, qu'est-ce qui était contenu dans ces kits?
En cash, nous avons donné 111,9 $ à chaque ménage bénéficiaire, et en kit wash, nous avons donné les seaux couverts ainsi que les gobelets pour conserver l'eau propre.
Cette catastrophe a touché aussi les élèves. Vous n'avez pas pensé aux élèves?
Au niveau des élèves, nous avons aussi pensé dans le territoire de Kibombo où on a assisté 900 élèves en kit scolaire. Dans 7 écoles. Auparavant, on ciblait 5 écoles, mais vu le nombre d'élèves dans chaque école, nous sommes allés à 7 écoles.
Pourquoi seulement choisir les territoires de Kibombo et laisser la ville de Kindu, qui était aussi victime et où il y avait aussi un grand nombre d'élèves qui ont perdu leur kit scolaire?
Au niveau de Kibombo, c'est là où les écoles ont été emportées. Donc, 3 écoles ont été emportées, dont leurs toitures sont parties, et aussi une autre école a perdu le mur. Donc, même si vous voyez les images, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de vulnérabilités au niveau des écoles, au niveau des territoires de Kibombo, Cheferi, Dankuchu, groupe Madengue.
Vous, le partenaire, vous êtes très souple à venir assister les sinistrés. Est-ce que vous allez seulement vous limiter en assistant les victimes ou bien vous songez aussi à ce qui est bonne gestion des catastrophes naturelles?
Comme je le disais, nous avons doté la ville de Kindu et les territoires environnants d'un plan de réduction des risques liés aux catastrophes. Donc, la protection civile, la division des actions humanitaires, le PST, la division de l'environnement, ensemble avec d'autres couches de la population, ont fait toute une journée de raisonner comment est-ce qu'on peut prévenir les catastrophes naturelles dans la ville de Kindu et ses environs.
Qu'est-ce qui est contenu dans ces plans de réduction des risques? Qu'est-ce que vous avez donné comme proposition?
Dans la proposition, nous avons dit qu'il faudra que les gens respectent d'abord l'environnement, parce que vous vous souviendrez qu'au mois d'août, c'est pendant une période sèche, et que pendant la période sèche, il n'y a pas de catastrophe, mais pourvu qu'il y ait le changement climatique, maintenant nous assistons à ce qu'il y ait des catastrophes naturelles pendant la période sèche. Alors, ils ont raisonné, il faut planter les arbres, il faut aussi respecter les normes urbanistiques, surtout sur les constructions anarchiques qu'on est en train de voir par-ci, par-là.
Cette catastrophe naturelle a touché plus de 2000 ménages, mais vous venez assister seulement 1350. Que pensez-vous des autres?
Le Bayer, c'est StatFound, peut avoir le chiffre de 3 000 à 4 000, mais si le Bayer a la possibilité d'assister 1000, 1500, 1350, comme ça a été notre cas, donc nous n'avons que respecter et travailler avec ces montants. Et nous avons suivi de près pour que ceux qui sont d'abord dans les critères puissent être identifiés, et c'est ce qui a été fait, et après ils ont été assistés. Et aussi, c'est une occasion d'inviter les autres partenaires, parce que nous voyons que les besoins sont énormes. Dans la ville de Kindu, dans les territoires de Kibombo par exemple, beaucoup d'écoles sont par terre. Alors, nous invitons les autres organisations humanitaires à venir aider cette population qui est en souffrance. Nous avons fait le premier pas, il faudra que les autres suivent et aussi fassent le deuxième pas.
Alors vous êtes aussi rangé dans le cadre de la réduction de risques liés aux catastrophes. Est-ce que vous avez pu aussi former quelques relais communautaires pour continuer avec la sensibilisation?
Oui, nous avons formé 60 relais communautaires pour ce qui concerne eau, hygiène et assainissement sur les 5 mesures barrières de lutte contre les choléras et contre aussi les maladies d'origine hydrique. Je pense que ces relais vont continuer à travailler même après nous, et aussi à promouvoir cette culture-là de lutter contre les maladies d'origine hydrique et aussi contre les choléras.
Jean-Claude Kayumba Chabani, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était donc Jean-Claude Kayumba Chabani, coordonnateur du réseau des associations pour le développement communautaire dont le Manima, qui s'exprimait sur l'assistance apportée aux sinistrés des récentes pluies diluviennes et les défis rencontrés par son organisation pour répondre aux besoins des victimes. Entretien réalisé par Florence Kizalunga. Ce journal sur Radio Okapi touche à sa fin. Il a été réalisé avec la contribution de toute l'équipe rédactionnelle. Mise en onde, Alain Goy. Coordination, Jude Mister Bilanda. Présentation, Gisèle Cage. Retrouvez ce journal en podcast sur www.radiokapi.net et restez informés via nos réseaux sociaux. À très bientôt.